ceux qui ont besoin d'un fou de cour. Ceux qui sont très beaux, très bons, très puissants, n'apprennent presque jamais, quel que soit le sujet, la vérité entière et vulgaire. Car en leur présence, on ment involontairement un peu, parce que le nez sous leur impression est que, conformément à cette impression, on présente ce que l'on pourrait dire de vérité sous forme d'adaptation. On fausse donc la couleur et le degré des faits. On omet ou l'on ajoute des détails, et l'on garde à part soi ce qui ne se laisse point assimiler. Si les hommes de cette espèce veulent apprendre la vérité, malgré cela et à tout prix, il faut qu'ils se tiennent à fou de cour, un être qui possède le privilège du fou de ne point pouvoir s'assimiler. Impatience. Il y a un degré d'impatience chez les hommes de pensée et d'action, qui, au moindre succès, les fait passer de suite au camp opposé, les pousse à s'y passionner et à s'adonner à des entreprises, jusqu'à ce que, là aussi, ils soient chassés par une hésitation de succès. C'est ainsi qu'ils errent, aventurés et violents, à travers la pratique de beaucoup de royaumes et de natures variées, et il se peut qu'ils finissent par devenir, par la connaissance universelle des hommes et des choses, que laisse en eux l'expérience prodigieuse de leurs aventures, et en adoucissant un peu leur instinct, des praticiens puissants. C'est ainsi qu'un défaut de caractère devient une école de génie. Interrègne moral. Qui serait capable de décrire maintenant déjà ce qui remplacera un jour les sentiments et les jugements moraux? Bien que l'on soit à même de se rendre compte que ceux-ci sont entachés d'erreurs dès leur base, et que leur édifice ne se peut réparer, leur sanction diminue forcément de jour en jour, dans la mesure où la sanction de la raison ne diminue pas. Édifier à nouveau les lois de la vie et de l'action. Pour accomplir cette tâche, nos sciences de la physiologie, de la médecine, de la société et de la solitude ne sont pas encore assez sûres d'elles-mêmes. Et ce n'est qu'à ces sciences que l'on peut emprunter les pierres fondamentales d'un idéal nouveau, si ce n'est cet idéal lui-même. Nous vivons donc d'une existence provisoire, ou d'une existence de traînard, selon notre goût et selon nos talents. Et ce que nous faisons de mieux dans cet interrègne, c'est d'être, autant que possible, nos propres régesses et de ne point fonder de petits états à laisser. Nous sommes des expériences ayant la volonté d'en être. Interruption. Un livre comme celui-ci n'est pas fait pour être lu hâtivement d'un bout à l'autre, ni pour en faire la lecture à haute voix. Il faut l'ouvrir souvent, surtout en se promenant ou en voyage. Il faut pouvoir s'y plonger, puis regarder ailleurs, et ne rien trouver d'habituel autour de soi. La première nature. Telle que l'on nous élève maintenant, il nous vient d'abord une seconde nature, et nous la possédons lorsque le monde nous dit arriver à maturité, émancipé, utilisable. Seul un petit nombre est assez serpent pour repousser un jour cette peau, alors que, sous son enveloppe, la première nature est arrivée à maturité. Mais chez la plupart des gens, le germe en est étouffé. Une vertu qui est dans son devenir. Les affirmations et les promesses, comme celles que nous fait la philosophie antique au sujet de l'harmonie entre la vertu et la béatitude, ou bien celles que nous fait le christianisme en disant « Aspirez avant tout au royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît », n'ont jamais été faites avec une sincérité absolue, mais toujours sans mauvaise conscience. On présentait audacieusement de telles propositions que l'on désirait tenir pour vraies, comme si elles étaient la vérité même, bien qu'elles fussent en opposition avec l'évidence, et cela, sans avoir de remords de conscience religieux ou moral, car, in honorem maiorem, de la vertu ou de Dieu, on avait dépassé la réalité, sans aucune intention égoïste. Un grand nombre de très braves gens se trouvent encore sur ce degré de véracité. Lorsqu'ils se sentent désintéressés, ils se croient autorisés à prendre la vérité plus à la légère. Que l'on considère que ni parmi les vertus chrétiennes, ni parmi les vertus socratiques ne figure la loyauté. C'est là une des vertus les plus jeunes. Elle est encore peu mûrie. On la confond et on la méconnaît souvent. À peine consciente d'elle-même, elle est quelque chose qui se développe, que nous pouvons accélérer ou entraver selon des tendances de notre esprit. Dernière indiscrétion. Il y a des hommes à qui arrive l'aventure des chercheurs de trésors. Ils découvrent par hasard, dans une âme étrangère, les choses gardées cachées, et ils en tirent une expérience qui est souvent difficile à porter. On peut, dans certaines circonstances, connaître les vivants et les morts, avoir la révélation de leur âme au point qu'il nous devient pénible de s'en expliquer vis-à-vis des autres. Chaque parole vous fait craindre d'être indiscret. Je m'imaginerais facilement l'historien le plus sage devenant soudain muet. Le gros lot. Il existe quelque chose d'excessivement rare et qui nous plonge dans le ravissement. Je veux dire l'homme à l'esprit admirablement formé, qui possède aussi le caractère et les penchants qui font partie d'un pareil esprit, et qui rencontre dans sa vie les aventures qui y correspondent.